Karen est l'invitée unique du Forum des Jeunes. Elle est meusienne, elle est étudiante et son envie d'entreprendre lui donne des ailes et également 1000 idées fourmis dans sa tête. Elle est venue nous présenter ses projets et ses motivations. Être jeune et entreprendre, c'est le thème de l'émission. Bonjour, c'est Lionel Pierrot pour le Forum des Jeunes. Donc je reçois aujourd'hui dans le Forum des Jeunes Karen qui va se présenter. Bonjour Karen.
Bonjour.
Alors, qui êtes-vous? Que faites-vous? Quelles sont vos motivations? On va commencer par là.
Alors, donc je m'appelle Karen, j'ai 26 ans et je suis en doctorat de biologie que j'effectue dans un contexte un peu particulier, c'est-à-dire que je suis certes dans un laboratoire de recherche, mais je suis financée par une entreprise. Ce qui m'a permis de connaître deux environnements qui sont assez différents et qui motivent pas mal ma démarche de création d'entreprise.
Mmh. Le parcours pour arriver jusqu'à préparer une thèse, quel est-il?
Alors le mien en particulier, c'est que j'ai fait mes deux premières années de fac de bio à Nancy.
Oui.
Et ensuite, je suis partie à Paris pour faire une formation qui est un petit peu particulière parce qu'elle se déroule en 3 ans, donc à cheval sur la licence 3 et sur le master, qui permet de faire des stages à l'étranger quasiment, donc en fait un par an, un en licence 3, un en master 1. Et en master 2, on a tendance à rester à Paris parce qu'on va commencer un petit peu à approcher notre laboratoire de thèse. Et donc c'est pour ça que je suis partie, c'est parce que y avait des opportunités donc de partir en stage à l'étranger. Depuis, je suis restée là-bas parce que mon laboratoire d'accueil a été celui d'une de mes profs.
Oui.
Que j'ai rencontré en master 1 et bah, depuis voilà, ça se passe très bien. Je suis exactement sur le même campus depuis 2009 et ça a tendance à me plaire suffisamment pour que j'y reste encore un an de plus, donc
ouais.
Dans le cadre du diplôme d'étudiant entrepreneur.
D'accord, donc la thèse sera présentée d'ici peu.
Oui, normalement je soutiens en novembre.
En novembre, mmh. Donc ça nous laisse encore quelques mois pour peaufiner tout cela.
Oui, c'est ça.
Et donc ce doctorat en partenariat avec une entreprise, on peut peut-être en dire deux mots,
soit sûr.
L'entreprise et puis également
le
thème de
oui,
la thèse.
Oui, alors écoutez, je suis assez contente de parler de ce contexte-là parce que c'est finalement pas assez connu et pourtant vraiment, vraiment avantageux. C'est-à-dire que donc, mon entreprise qui s'appelle Carl Zeiss, qui produit des microscopes, qui vend des microscopes, avait envie de monter une collaboration avec le laboratoire dans lequel j'ai fait mon stage de master 2. Et donc, on en a profité pour le faire autour de mon sujet de thèse, qui justement nécessitait l'utilisation d'un des microscopes de l'entreprise. Donc, ce qui s'est fait, c'est que donc on a signé ce qui s'appelle une CIFRE, donc c'est une convention industrielle de formation par la recherche,
oui.
Donc qui fait de moi une salariée de l'entreprise, mais travaillant sur un projet de recherche dans un laboratoire public. D'ailleurs, je n'ai pas énormément l'occasion d'aller dans l'entreprise, mais par contre, j'ai des contacts vraiment très proches avec eux, qui sont quasiment... pour moi, ils font partie de l'encadrement de ma thèse à peu près au même titre que certaines personnes du laboratoire. Mmh.
Donc, parce que, oui. J'allais dire une entreprise qui commercialise des microscopes. Mmh. On a l'impression que le microscope, c'est un objet presque ancestral. On peut encore innover dans ce domaine-là.
Ah oui, alors là, pour tout vous dire, on innove énormément. Alors d'ailleurs, cette entreprise a été créée par celui qui a produit les premiers microscopes en Allemagne. Uh-huh. Et du coup, celui que j'utilise aujourd'hui n'a pas grand-chose à voir avec celui qu'on imagine un petit peu sur une table ou sur une paillasse parce qu'il est vraiment très très volumineux. Il utilise une pièce entière. Et pourquoi? C'est parce qu'en fait, il utilise des lasers. Et c'est le trajet que ces lasers vont faire pour accéder jusqu'à notre échantillon sous le microscope qui va être piloté par pas mal de systèmes différents qui vont prendre de la place et qui vont être pilotés à l'échelle micrométrique. Donc ça nécessite beaucoup de calculs d'ordinateur derrière. Donc vraiment, ça fait des appareils très, très perfectionnés.
En tout cas, donc vous avez eu, je ne sais pas si c'est la chance, en tout cas l'opportunité de mener ce travail sur la thèse en partenariat avec une entreprise. Et ça vous a donné des idées par rapport à l'esprit d'entreprise et l'esprit d'entreprendre?
Oui, alors ça m'a donné l'idée en tout cas de faire l'entreprise telle que je vais l'envisager. Mais ça m'a surtout donné un contexte vraiment...
favorable.
Oui, voilà, parce que finalement, quand on est dans un laboratoire de recherche, ce n'est pas très souvent qu'on a l'occasion de parler avec des acteurs du monde socio-économique. Dans ce contexte-là, j'ai eu cette opportunité maintes et maintes fois. Et donc, c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé à au moins de construire un réseau
De connaissances.
Et puis d'industriels en règle générale, parce que c'est vrai que sinon je ne vois pas exactement comment j'aurais pu les rencontrer. C'est vrai que cette particularité à pouvoir parler autant avec les chercheurs qu'avec les industriels m'a amené à me dire que ce genre de contact-là était trop rare en fait.
Et la différence entre le monde universitaire et puis le monde de l'entreprise par rapport à l'obligation de résultat, j'imagine qu'attend l'entreprise.
Oui, alors c'est en fait c'est pas la même finalité. Un laboratoire de recherche va vouloir amener des nouvelles connaissances. Une entreprise a quand même un but lucratif et donc de produire quelque chose qui pourra être amené sur le marché. Donc la finalité, ça va être de développer un produit. Et du coup, c'est pas vraiment la même démarche, on va dire, parce que dans un laboratoire de recherche, on va toujours se poser de nouvelles questions à propos de nos réponses qu'on a souvent mis très longtemps à trouver. Alors que dans un laboratoire de recherche et développement, lorsqu'on a acquis suffisamment de connaissances sur notre question, on va vouloir développer quelque chose.
Pour aboutir à la commercialisation.
Exactement.
Donc, ce partenariat vous a emmené vers le concours entrepreneurial.
Oui, c'est ça.
Alors ça, c'est pour la suite, après votre thèse, lorsque vous serez docteur en sciences, quel titre vous aurez ?
Alors, il y a des chances que je sois docteur en biophysique, mais ça, j'avoue que ce n'est pas encore convenu, parce que c'est vrai que mon sujet de thèse est un peu interdisciplinaire, et du coup, j'ai un peu le choix en fait, entre biologie cellulaire ou biophysique.
Oui, donc en tout cas, l'objectif concret, c'est par ce concours entrepreneurial, c'est ne pas attendre d'être repéré par une entreprise pour trouver un emploi, mais créer votre emploi en créant votre entreprise.
C'est un peu ça, mais ce n'est pas juste créer mon emploi, parce que je dirais que ce que j'ai pu envisager pendant ma thèse, c'est que je ne suis pas vraiment faite pour être salariée, en fait. C'est-à-dire que je pense beaucoup. Ça m'empêche un peu de dormir, d'ailleurs. Et c'est vrai que je préfère mettre à profit ce temps-là que j'utilise à faire quelque chose qui me plaît plutôt que d'attendre qu'on me donne des choses à faire, disons.
Oui.
Donc, j'aurais pu peut-être faire ça au sein d'une entreprise, parce qu'on parle aussi d'intrapreneuriat quand quelqu'un a des projets dans une entreprise. Mais bon, tant qu'à faire, j'ai envie de dire, autant partir de rien. Et puis c'est vrai que le projet que j'ai ne colle pas à quoi que ce soit que je connaisse pour l'instant.
Alors justement, vous avez un projet. Est-ce que l'institution, l'université, les entreprises, le monde de l'entreprise, est-ce qu'il y a des possibilités, des facilités qui sont offertes aux étudiants pour mener à bien cette difficile expérience de créer son entreprise ?
Alors, il y en a de plus en plus, je dirais. Alors, au sein de l'environnement, l'écosystème entrepreneurial, il y a des associations qui existent depuis longtemps. Donc ça, il faut prendre un petit peu de temps pour les connaître et s'y intégrer. Par contre, maintenant, ce qui existe, c'est le diplôme d'étudiant entrepreneur qui permet à des étudiants, donc que ce soit des licences 1 ou des doctorats 3e année comme moi, d'être encadrés par l'université pendant le montage du projet entrepreneurial et d'avoir un diplôme à la fin. Donc, parce qu'il y a vraiment validation de certaines unités. Et donc, c'est clair sur le CV ensuite. Je veux dire, si l'étudiant finalement choisit de retourner vers le salariat, il n'aura pas perdu son temps du tout. Il aura énormément appris de choses et ça sera notifié.
Ça sera écrit quelque part.
Voilà, tout à fait.
Alors concrètement, comment on s'y prend avec toutes ces possibilités, la structure qui est proposée aux étudiants ?
Alors, dans la plupart des pôles universitaires, donc notamment à Nancy aussi, enfin c'est sur l'université de Lorraine, il y a ce qu'on appelle des pépites, qui sont des pôles d'entrepreneuriat étudiant auxquels on va soumettre notre projet, notre CV, nos motivations, et à la suite de ça, ils vont accepter ou non, et je pense qu'ils acceptent dans la grande majorité des cas, de soutenir le projet entrepreneurial de l'étudiant, donc par l'inscription dans ce diplôme.
Pour le moment, c'est l'acceptation, elle est relativement facile à obtenir.
Oui, et puis je pense de toute façon, pour l'instant, c'est très neuf. Ça date de fin 2014, donc j'imagine qu'ils n'ont pas énormément de recul pour pouvoir dire s'il y a des projets qui ne sont pas acceptables ou pas. Mais je pense que de toute façon, c'est vraiment une démarche d'assistance et qui ne serait pas très logique de refuser qui que ce soit. Peut-être réorienter le projet quand il paraît difficile à concevoir, mais ni plus ni moins que ça, je pense.
Donc vous avez peut-être constitué votre dossier. On dépose ce dossier à l'organisme en charge de cette activité. Et ensuite, que se passe-t-il ?
Et ben ensuite, on est intégré dans le Pépite, qui nous met à disposition donc des formations en gestion, en management, donc enfin tout ce type de formations qui sont vraiment nécessaires à la création d'entreprises, qui met à disposition dans certains cas des espaces de coworking, donc qui permettent aux étudiants entrepreneurs d'avoir des bureaux et des salles de réunion s'ils doivent faire venir leurs futurs clients ou potentiellement leurs clients quand ils sont vraiment lancés.
Donc une structure matérielle.
Voilà, exactement. Et du coup, le fait d'avoir une structure physique permet aussi de rencontrer les autres étudiants entrepreneurs, donc de pouvoir commencer à se créer aussi un réseau qui pourra être vraiment très, très intéressant par la suite. Et puis bah, d'être tous nus, parce que c'est vrai que quand on se lance dans ce genre de choses, on a besoin de se confronter un petit peu aux autres personnes qui traversent la même période. Donc c'est
faut
vrai
pas être seul, quoi.
Voilà. Et puis d'ailleurs, je pense que c'est vraiment l'idée de départ, en fait. C'est de pouvoir dire aux étudiants, vous pouvez le faire. Il n'y a pas besoin d'attendre d'avoir votre diplôme. Nous avons déjà construit des structures qui peuvent vous aider. Et en plus, vous verrez, vous ne serez pas seul. Il y a d'autres personnes qui sont dans le même cas.
Oui, donc vous êtes passé par ce parcours-là?
Alors, pas encore, tout simplement parce que je suis en dans la période la plus compliquée de la thèse, on va dire, c'est-à-dire quand il faut commencer à vraiment rédiger sérieusement, remettre ses idées au clair. Et ça, on a tendance à considérer que c'est au moins 6 mois où on est un peu la tête dans le guidon, donc c'est difficile. Et moi, malheureusement, j'ai choisi cette période-là pour me lancer dans la création d'entreprise, donc ça fait beaucoup de choses en même temps. C'est passionnant, vraiment, c'est intense, mais passionnant. Et du coup, bah, moi, j'ai d'abord rencontré les gens du Pépite avant de déposer mon dossier, ce qui fait que je suis déjà en contact avec eux. Mais je ne suis pas encore notifiée comme inscrite dans ce diplôme. Mais ça ne saurait tarder. Hein.
Ça permet d'avoir des contacts,
oui. Puis d'être convaincu de la pertinence du projet, en tout cas même avant de se lancer dans quoi que ce soit, comment dire, de figer quoi. Parce que c'est vrai qu'une fois qu'on commence à avoir écrit à quoi ça ressemblait sur du papier, c'est encore autre chose que de l'avoir juste en tête.
Donc tout à l'heure, on parlait très rapidement du concours entrepreneurial. Alors comment se déroule ce concours
Alors ce concours, c'est un parmi tant d'autres, je dirais, mais alors l'intérêt qu'il a, c'est qu'il est vraiment destiné aux jeunes, puisque c'est pour les 18-26 ans, qui s'appelle 100 jours pour entreprendre. Et il est très ludique dans le sens où ça passe par une vidéo, donc c'est assez original, c'est pas simplement remplir un dossier.
Donc ça, c'est une démarche parallèle par rapport à la structure
En fait, c'est plutôt ce qui m'a lancé, on va dire. C'est indépendant du diplôme étudiant entrepreneur, mais dans mon cas, c'est chronologiquement, ça s'est passé avant. Parce que c'est vrai que s'il n'y avait pas eu le concours, il y avait des chances que je ne serais même pas là aujourd'hui pour vous parler du projet. J'aurais peut-être pas osé me lancer. Le fait que le concours passe par une vidéo et des votes a fait que j'ai été convaincue de la pertinence, en fait. Parce que en parlant beaucoup de manière très, très large autour de soi et avoir des retours positifs, ça encourage énormément.
C'est vrai que le fait d'être obligé de passer par la réalisation de la vidéo, ça impose pour chacun de réfléchir sur la faisabilité, l'opportunité, les modalités pratiques du projet dont on parlera dans quelques minutes.
Oui, bah en fait, je pense que ça doit arriver à peu près à tout le monde une fois ou de temps en temps de se dire, ah bah tiens, ça serait sympa si on créait une entreprise ou une association ou je ne sais quoi qui aurait ce but-là parce que bah, y a personne qui le fait et ça manque. Et
ça force à rédiger un cahier des charges,
voilà,
en quelque
sorte. Exactement, parce qu'en fait, on peut en parler vraiment pendant des jours tant qu'on n'a pas vraiment fixé ses idées et qu'on n'en a pas parlé à l'extérieur. Ça ne peut pas se concrétiser. Et là, c'est vrai que ça a été fulgurant parce que le concours, je l'ai pris un peu en retard. Donc, au lieu d'avoir 100 jours pour entreprendre, j'en ai eu que 10. Mais ça n'empêche que ça a passé et c'est vrai que c'est extrêmement encourageant.
Bien, je vous propose de faire une pause musicale dans cette émission. On écoute David Bonaventure.
Connaissez-vous cette fille étrange? Pas de petite amie, belle comme un ange. Elle habite là-haut, sous les toits. Je pense qu'elle est différente, tu vois. Il paraît qu'il existe encore secrètement les sorcières de Salem, prêtresses de Satan. Elles vivent cachées au milieu de nous. Cette fille-là, c'est certain, a le pouvoir vaudou. Si elle m'emmène sur son balai, je promets de l'aimer, je promets. je promets. Je la trouve soudain plus méfiante, et dès que je la vois, oh, elle m'enchante. Elle a dû jeter ses pouvoirs sur moi. Je perdrai mon âme, ça va de soi. Je ne sais par quel sortilège je suis dans sa toile, je suis prise au piège. Je n'en peux plus si je la vois. Je dois lui parler, quoi qu'il en soit. Si elle m'emmène sur son balai, je promets, je promets de garder pour moi seul son secret. Et je promets de l'aimer, je promets, je promets, je promets. Me paraît beaucoup moins excitante, car chez elle j'ai passé une soirée décevante. Ni chaudron, ni grimoire, ni balai, c'était tout sauf ce que j'espérais. J'aurais bien voulu une potion magique qu'elle fasse fumer un vieil alambic. Elle m'a proposé une soirée DVD. Je suis rentré chez moi déprimé. Si elle m'avait emmené sur son balai, fait boire un filtre ou posséder, j'aurais été complètement subjugué. Et pour une nuit, voire des années, je l'aurais aimé. Je l'aurais aimé.
Vous écoutez le Forum des Jeunes sur Fadjet. Nous parlons de l'esprit d'entreprendre, d'être étudiant et d'entreprendre. Et à l'instant, c'était David Bonaventure avec La Sorcière. Il est nancéen, auteur, compositeur et interprète. Et lui aussi, à force de pugnacité, d'esprit d'entreprendre, il a réalisé son premier album. C'est un bel exemple.
Oui, alors pour moi, c'est vraiment exactement la même chose, en fait. De vouloir créer une entreprise, de vouloir sortir un disque, de vouloir écrire un livre. Ça va être la même démarche d'essayer de rassembler des gens pour pouvoir nous aider, là, en premier. Rassembler de l'argent, parce qu'on ne peut pas se lancer sans argent. Et motiver, et rester motivé aussi, je dirais, parce qu'à mon avis, il y a énormément de difficultés, notamment dans la musique, parce que c'est quand même très compétitif aussi. Et ouais, voilà, c'est exactement pareil.
Ne pas baisser les bras face à la première difficulté. Karen, vous êtes donc, je le disais, étudiante, doctorante. Vous avez bénéficié des structures pour entreprendre. Alors le projet, il est en cours, il est en train de mûrir. Est-ce que vous pourriez nous présenter concrètement le projet dont on n'a pas encore parlé?
Alors, on va dire que mon projet découle complètement des conditions dans lesquelles j'ai passé ma thèse, c'est-à-dire vraiment avec une sorte de partie de moi-même qui était en contact proche avec l'entreprise et une partie qui était en contact proche avec le laboratoire de recherche. Et je me suis surtout rendu compte que on avait énormément besoin de les mettre en contact le plus souvent possible, parce que c'est des structures qui veulent aller dans la même direction. Mais qu'ils le font de manière différente.
Donc le domaine de l'entreprise et le domaine de l'université, oui. Ou plus généralement le domaine de l'école.
Alors voilà, en fait, si vous voulez, toutes ces structures, on va dire, qui peuvent être remplies par soit du public, soit du privé, et qui cherchent à apporter de l'innovation dans des domaines. Enfin, ça, je veux dire, moi, je suis biologiste, ça peut être dans la biologie, mais en réalité, ça peut vraiment être regardé sous tous les points de vue. Ça pourrait être dans l'électricité, ça pourrait être même dans le social. Apporter quelque chose de nouveau. Des chercheurs, c'est ce qu'ils font en permanence, c'est-à-dire qu'ils se posent des questions qu'on ne s'est encore pas posées, ou en tout cas qu'on n'a encore pas pu aborder avec les outils qu'on a maintenant. L'industrie ou n'importe quelle entreprise veut aussi innover pour créer le produit qui va être... celui qui fonctionnera le mieux, mais aussi qui va répondre à un besoin. Donc voilà, c'est la même démarche, mais c'est juste pas la même finalité, on va dire.
Oui.
Si on arrive à les faire se rencontrer à un moment donné, ça peut vraiment donner quelque chose, on va dire, d'explosif, parce que c'est, ça sera complètement synergique.
Alors, comment une petite entreprise peut favoriser la rencontre deux domaines?
Exactement, c'est les mettre en rencontre, en fait. Donc, créer soit des moments où ils vont pouvoir se rencontrer, donc ça peut être quelque chose d'événementiel, mais ça peut être aussi, moi, avec mon recul, je sais, par exemple, que tel laboratoire... tel endroit en France travaille sur une question. Mmh. Je sais que telle entreprise en ce moment a tendance à caler un petit peu sur son innovation. L'idéal, c'est quand même de pouvoir les mettre en contact l'un avec l'autre. Et c'est vrai qu'ils ont du travail chacun de leur côté, donc pouvoir être un peu la passerelle, ça peut aider à créer des projets collaboratifs entre le public et le privé.
Alors Karen, comment vous y prenez concrètement pour trouver des liens, proposer des rencontres?
Alors, il y a ce qu'on appelle l'innovation ouverte qui commence vraiment à bien fonctionner en France, parce qu'en fait, à l'étranger, notamment aux États-Unis, c'est quand même déjà assez connu, qui permet souvent à des entreprises de poser des questions assez larges et à attendre une réponse, en fait. Donc, ça pourra être de n'importe qui, ça pourra être du grand public ou d'un laboratoire ou d'une autre entreprise, d'ailleurs. Et en fait, ces concours sont... Enfin, ça s'appelle des concours, en réalité. C'est ouvert. Donc, moi, une première chose que je peux faire, c'est surveiller ces concours et me dire, bon, bah voilà, à telle question, je sais que tel laboratoire va pouvoir avoir une réponse. Ça passe quand même par le fait d'avoir un réseau quand même assez large, déjà dès le départ. C'est vrai que c'est la chance, je pense, que j'ai eue pendant ma thèse, c'est d'avoir l'occasion de rencontrer beaucoup de gens, notamment pendant les congrès, notamment grâce au fait que je sois de toute façon quand même sur un contexte assez transversal. Donc j'ai pu bénéficier des réseaux des différents intervenants de ma thèse.
Mais il n'y a pas un risque d'être cantonné dans le domaine de la biochimie?
Alors, peut-être que c'est un risque, mais d'une certaine manière, je dirais que moi, ça me convient, parce que ce qui me plairait, c'est qu'il y ait d'autres personnes qui viennent un peu de me rejoindre sur le projet, mais qui aient des compétences dans des sciences différentes. Parce que c'est vrai que bon, je suis quand même biologiste, je veux dire, je ne peux pas lutter contre ça, même si je m'intéresse globalement à tout, je ne serai jamais aussi compétente en chimie qu'un chimiste.
Oui, ou en électronique.
Voilà, exactement. J'ai une connaissance assez générale de ces sujets-là, parce que j'ai peut-être eu l'occasion de les aborder pendant mes études, mais ça restera en tout cas insuffisant pour pouvoir permettre à une entreprise ou à un laboratoire de pouvoir être mis en contact sur ces sujets-là. Mais ça n'empêche que une fois que j'aurai acquis la connaissance du réseau, enfin, de l'écosystème, je pense aussi pouvoir contacter les gens qui, eux, seront les bonnes personnes pour faire les passerelles à cet endroit-là.
Donc deux activités, en quelque sorte une veille technologique.
Oui, tout à fait.
En second lieu, un rapprochement, une communication.
Oui, oui,
et
voilà.
Concrètement, ça passe forcément par l'outil Internet, par la messagerie.
Oui, exactement. Alors tout à fait, c'est surtout grâce à Internet que tout ça est envisageable. Parce que même si ça aurait pu être fait il y a 50 ans, ça aurait mis des temps... tellement conséquent que ça n'aurait pas été avantageux de toute façon pour une entreprise d'essayer de contacter un laboratoire pour innover de manière partenariale.
Mais même si c'est rapide, efficace, il n'y a pas un regret de ne pas pouvoir se rencontrer autour d'une tasse de café ou d'une tasse de thé?
C'est quelque chose que j'envisage totalement, effectivement, parce qu'en fait, c'est un petit peu ce qu'on appelle la rencontre à la machine à café. Ça ne sera jamais aussi efficace que si on peut discuter de manière complètement informelle. Et c'est un peu sur cette idée-là que j'avais monté mon projet, donc, qui a concouru à 100 jours pour entreprendre, qui était en fait de faire un salon de thé dédié à l'interaction entre sciences et société. Bon, ça s'avérait que c'est un petit peu compliqué à mettre en place et avec de lourds investissements. Et donc, c'est vrai que le concours m'a permis ça. C'est de rencontrer des gens qui m'ont mis devant la réalité du marché, la réalité de mes capacités financière en tant que débutante totale dans l'entrepreneuriat.
Parce que si partager une tasse de thé autour d'une discussion informelle, ça peut être très sympathique, c'est difficile de faire rencontrer un Lillois avec un Marseillais ou avec les distances qui nous séparent.
Oui, effectivement.
Même si ce n'est pas une difficulté insurmontable, ça ne crée quand même pas les meilleures conditions pour échanger très rapidement.
Oui, c'est ça. Alors du coup, moi, je pense que potentiellement, je peux être mobile et donc aller rencontrer les gens de manière ponctuelle. Après, ça reste quand même beaucoup plus envisageable de faire par téléphone, par internet. Et de toute façon, ils n'ont pas besoin de se croiser tous les jours non plus.
Donc là, on parle de faire rencontrer les industriels, des chercheurs, des universitaires. Est-ce qu'on peut imaginer faire rencontrer également des écoliers, enfin, je pense à des collégiens, des lycéens, pour vulgariser la,
l'esprit en fait,
scientifique?
C'est là, exactement la partie sociale de mon projet, c'est-à-dire que je pourrais pas le faire si j'avais pas envisagé à un moment donné que cette science vulgarisée puisse aller vers un public plus jeune et on pourrait dire plus curieux peut-être parce qu'ils ne le feront pas avec un but. C'est un petit peu comme ça que j'essaye de travailler ce qu'on appelle mon business model. Donc comment je vais pouvoir faire rentrer de l'argent dans mon entreprise et comment je vais l'utiliser. Et c'est vrai que moi une chose que je veux vraiment faire c'est pouvoir aller faire des ateliers scientifiques dans les écoles, donc dans les collèges et les lycées, qui soient un peu différents de ce que les TP de sciences de la vie par exemple vous permettent.
Oui, parce que j'allais dire, bon, dans les écoles, dans les lycées, ils ont déjà tout ce qu'il faut. Ils sont dotés par des professionnels qui sont les professeurs.
Oui, oui. Ah oui, alors ce sont les pédagogues idéaux, il n'y a pas de problème à ce niveau-là, mais par contre, pas toujours le matériel. Moi, le matériel, je vais l'avoir justement parce que mon entreprise va me soutenir dans ces projets-là. Mon entreprise actuelle, je veux dire, en fournissant un microscope, par exemple. Et ensuite, un autre de mes projets qui est tout à fait dans la même logique, c'est que maintenant, on peut produire des sortes de mini-microscopes grâce à des imprimantes 3D qui s'adaptent sur les téléphones portables. Mmh. Et ça coûte quasiment rien à produire. Par contre, il faut le dire parce qu'on ne va pas le s'en douter comme ça s'il n'y a pas quelqu'un qui peut nous montrer. Et en fait, les faire avec une imprimante 3D, moi, c'est quelque chose que je peux actuellement, avec le matériel dont je dispose, en fabriquer quelques-uns et aller dans les écoles et les distribuer plus ou moins. Il pourrait quasiment y en avoir un par famille, quoi, je veux dire. Et c'est très intéressant parce que c'est quelque chose qu'on peut expérimenter soi-même, quoi.
Et apporter la science autrement au lycée, par exemple, en créant également des partenariats d'entreprises, une entreprise, un grand groupe, par exemple, que vous pourriez mettre en contact.
Oui, alors je pense que les grands groupes sont très friands de ce type d'interaction-là. Pouvoir apporter quelque chose d'éducatif, c'est vraiment intéressant. Surtout quand c'est un petit peu innovant, parce que c'est vrai que c'est un peu difficile finalement d'innover dans le domaine de l'éducation. On peut avoir l'impression que c'est un peu figé par les programmes scolaires. Mais en réalité, faire des ateliers une fois de temps en temps, c'est rafraîchissant pour les élèves, c'est rafraîchissant pour le prof aussi. Et puis surtout, moi en tout cas, c'est le souvenir que j'en ai à chaque fois qu'on a quelque chose comme ça d'un petit peu différent du reste de la semaine. Ça ouvre l'esprit, quoi. Mmh. Et c'est vrai que les entreprises ont des espaces dans leurs locaux qui sont parfois pas utilisés du tout. Et si on peut leur permettre de l'utiliser pour quelque chose de social, je pense qu'il y a vraiment des possibilités. D'ailleurs, c'est un peu ce qu'on m'a dit, parce que moi, c'est pas une chose dont je me doutais en réalité. Et apparemment, ça existe effectivement des grosses, grosses entreprises qui mettent à disposition leurs espaces pour faire des choses un peu comme ça.
Bien, je sais aussi que vous êtes membre de l'association 100 000 entrepreneurs. Ça sert à quoi, cette association ?
Eh ben en fait, cette association fait un peu pour l'entrepreneuriat ce que moi je voudrais faire avec les sciences, c'est-à-dire aller dans les salles de classe pour présenter ce que c'est qu'être un entrepreneur à des élèves qui, généralement, ont une image du patron qui est quand même très froide.
Rétrograde.
Oui. Voilà, c'est quand même... Enfin, je sais pas vraiment d'où ça vient, mais en tout cas, c'est vraiment persistant. C'est qu'on imagine que le patron, il a un costard. Souvent, c'est un homme, d'ailleurs.
Oui.
Il a une grosse voiture et quand il parle... On ne comprend pas vraiment ce qu'il dit parce qu'en fait, il réfléchit un peu trop sur des domaines qui n'intéressent pas les élèves. Sauf que c'est faux. Alors déjà, je pense que j'en suis la preuve, c'est-à-dire que je suis rien de tout ça. Mais en réalité, il n'y en a pas énormément qui sont encore comme ça. Et justement, dans cette association-là, c'est aussi intéressant pour moi d'en faire partie parce que c'est incroyable en fait. C'est des gens qui ont accès parfois à des sommes d'argent qui me dépassent complètement, mais qui pourtant, ce qu'ils aiment, c'est pouvoir partager, pouvoir motiver les gens à prendre des initiatives, même parfois soutenir ces initiatives grâce aux fonds dont ils disposent, et donc divulguer une autre image de ce que c'est qu'être un entrepreneur. Et encore une fois, entrepreneur au sens large, ça ne veut pas dire créer une entreprise qui a pour but de devenir avoir un monopole sur un domaine. Ça peut être parfois simplement créer une petite association de quartier qui va permettre de répondre à une question qui, à un moment donné, dans le quartier, s'est posée. qu'est-ce qu'on va faire de ce terrain-là qui est en train de partir en ruine,
oui.
Voilà. Il y a des gens, c'est ça leur entrepreneuriat, et c'est vraiment important, je veux dire, parce qu'au final, si le problème s'est posé, c'est qu'il fallait y répondre. Hein.
Oui, et donc c'est proposé à l'école, aux élèves, aux étudiants, également l'esprit d'entreprendre.
Oui, c'est ça, effectivement. Leur montrer qu'on peut se lancer qui qu'on soit, en fait, et qu'il y aura des gens pour nous soutenir, et des gens pour nous accompagner dans la bonne direction et pas se perdre tout le temps à se poser beaucoup de questions, parce que forcément, c'est des choses qui se passent à peu près quotidiennement. On se dit, est-ce que j'ai raison de faire ça ou pas? Parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, j'aurais pu aussi choisir d'aller me faire embaucher dans une entreprise. Je pense d'ailleurs que j'ai de la chance, parce que le fait que je sois déjà financée par une entreprise me donne beaucoup plus d'opportunités d'emploi que la plupart des autres doctorants. Mais pourtant, c'est pas comme ça que j'envisage mon avenir, donc... je change un petit peu de voix.
L'esprit d'entreprendre, c'est pas destiné juste à ceux qui savent déjà. On peut être étudiant, jeune et se lancer dans l'entreprise. C'est ce que vous êtes venu témoigner aujourd'hui. Merci pour ces explications. Et puis chacun a bien compris que les structures pour l'aide à l'entreprise sont nombreuses. Il faut savoir frapper à la bonne porte.
C'est ça.
Au revoir Karen.
Au revoir. Merci.